Envie de parier sur le sport? Avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleures cotes du marché.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Do you want to be a fighter?
RMC.
There's only one Tyson Fury.
Fighters Club.
I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody.
Alexandre Herbinet.
I am the greatest.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 255e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour recevoir le coach de Manon Fioro, coach du Boxing Squad à Nice, monsieur Aldric Cassata. Comment ça va Aldric?
Salut mon Alex, écoute très bien et je suis ravi d'être là.
Ravi aussi de te recevoir et de parler de Manon Fioro, mais aussi du reste du Boxing Squad. Elle le méritait déjà après Kathleen Choukagian-Serminar et après Rose Namajunas. Alors après Erin Blanchfield, dominée de A à Z sur 5 rounds fin mars à Atlantic City, il n'y a plus aucun débat. Manon Fioro doit avoir sa chance pour le titre des moins de 57 kilos de l'UFC. Il faudra sans doute patienter un peu et laisser passer le troisième opus entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko. Mais The Beast va bien avoir l'opportunité de devenir la première représentante tricolore, hommes et femmes confondus, à remporter le titre incontesté de la plus grande organisation de MMA. Pour évoquer cet avenir qui fait saliver le RMC Fighter Club reçoit Aldric Cassata, coach de Manon Fioro et du Boxing Squad, où d'autres talents pourraient eux aussi rejoindre la célèbre organisation aux trois lettres.
C'est parti, parti. 5 rounds de 5 minutes, je vous rappelle, un combat en jeu pour la Française.
Que ce soit en striking, en lutte, au sol, en fait j'étais meilleur partout, j'ai pas été inquiété une seule fois pendant le combat.
Jab là. C'est jab qui passe.
Et elle va lutter avec elle, regardez.
Elle la slave au sol.
En fait c'est la première fois que je me faisais huer par le public. Je pensais pas que ça allait me booster autant.
Ouais, ça c'est bien timing. Très très bon timing. Regarde.
Contre de Manon, magnifique.
Magnifique.
Wow.
Et la sortie.
J'ai arrivé dans la cage, j'étais super énervé.
Elle l'a fait. Elle l'a fait. C'est fait. Manon Fioro vient de valider son combat pour le titre.
Comme j'ai dit, il n'y a plus personne devant. Donc maintenant, on attend le combat pour la ceinture. Même une ceinture intérim, mais une ceinture.
For the winner, by unanimous decision, Manon, the Beast, Fioro.
On m'a mis encore un combat contre Rose, j'ai gagné. On m'a encore mis un combat derrière. J'ai encore gagné, donc là, là c'est la ceinture maintenant.
Yeah, for sure, now there's obstacles.
Et merci à Max Sabolin pour cette petite prod qui était entre les commentaires du combat de Manon contre Erin Blanchfield et puis les interviews post-fight au micro de Pierre-Henri Cachera qui était à Atlantic City pour nous. Et puis de Ariel Helwani avec une petite phrase en anglais d'Aldric à la fin. C'était pour le chambrage, Aldric, la petite phrase de fin. Le traducteur officiel, il est là. Aldric, on va d'abord revenir sur cette victoire contre Erin Blanchfield. Donc on rappelle, c'était le 30 mars, Atlantic City. 5 rounds à 0, 50-45 pour les trois juges. Donc masterclass et domination absolue. Y a déjà cette impression quand même qu'elle était largement au-dessus d'Erin Blanchfield. T'as pas eu de surprise là-dessus? C'est ce que vous attendiez, Aldric?
Non, pour être vraiment totalement honnête, quand on nous a proposé le match-up courant en décembre, on avait déjà analysé, parce que tu sais, quand tu arrives à ce niveau-là, il n'y a pas 40 000 adversaires qui... Je te dis la vérité, on pensait qu'on pouvait attraper Grasso parce qu'elle avait... Elle avait call-out pour avoir Wheeling au mois d'avril. Donc on avait un petit espoir quand même. Espoir qui nous a vite ramené à la réalité, puisque c'est Dana lui-même qui l'a annoncé. Donc il y avait un peu de déception, mais il y avait aussi un intérêt d'avoir un synchrone, un intérêt d'avoir une fille qui pouvait vraiment pas inquiéter Manon. Et ce n'est pas, d'être présomptueux que de penser ça, c'est juste que... Avec les qualités qui sont les siennes. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, ils aiment bien cocher des cases. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, elle reste debout, donc c'est une strikeuse. Mais nous, on sait, ce n'est pas le cas. Nous, on sait que depuis 2017, elle fait autant de luttes que de striking dans ses journées de travail.
C'est une combattante complète.
Bien sûr. Et il y avait, sur une combattante... Alors, ce n'est pas qu'elle est unidimensionnelle, ce n'est pas vrai. Parce que Blanchfield, elle a réussi à striker contre Santos un petit peu. Elle a réussi à striker contre Andrade. C'est qu'elle ne pouvait pas mettre Manon au sol, ça, on le savait. Et striker contre Manon, elle était en difficulté parce qu'il y avait la taille et le talent aussi, disons-le clairement.
Donc mais elle a ce striking inhabituel, en fait, qui est très différent d'un striking classique propre, qui fait que tu peux être mise en danger sur un truc où tu t'attends pas.
Exactement. Par rapport aux partenaires d'entraînement qui sont ceux de Manon, je parle des partenaires habituels, on a fait venir des sparring spécifiques. Tu as des gens comme Miguel Haro, comme Théo Muris, qui ont une boxe très très propre. très académique. Et du coup, quelqu'un qui fait un peu du brawl et qui vient chercher le clinch, c'est quelque chose que j'ai pas, moi, dans les sparring de Manon. Et c'était effectivement la préoccupation principale.
Ouais, c'est souvent, même en boxe anglaise, on a souvent ce problème-là, où quand tu es très académique dans ta boxe ou dans tes partenaires d'entraînement, une fois que tu rencontres un mec qui fait du dirty boxing ou qui change un peu le plan, c'est plus compliqué, en fait.
Ouais.
Il y a cette idée dans le premier round, nous, on en a parlé dans le débrief avec Baba au Fighter Club, il y a cette amenée au sol, très vite, qui va se transformer en tentative de guillotine pour Erin. Je te dirai un mot aussi là-dessus. C'est un statement. Nous, on a dit ça, mais on t'avait pas eu, on n'avait pas eu Manon, donc on n'était pas sûr de notre analyse. Nous, on se disait, c'est un statement. Manon est arrivé dans la cage et lui a dit, tu veux me lutter ? C'est ça ton chemin de victoire ? Eh ben, en 30 secondes, je te dis qu'en fait, tu vas pas y arriver. C'était ça l'idée derrière cette amenée au sol ?
Très honnêtement, oui. Après, comme tu le sais, on avait déjà parlé dans d'autres Fighter Club, moi, il n'y a pas vraiment de game plan à la lettre. Il y a des séquences qu'on travaille. Et après, c'est l'artiste martial. J'aime bien cette expression. C'est plutôt les Canadiens qui disent ça, artiste martial, mais j'aime bien. C'est, je trouve que c'est plus noble que combattant. Et surtout, c'est plus réel. Je veux dire, aujourd'hui, les gars, ils ont un fight IQ. Tu leur fais travailler des séquences et après, c'est à eux de les mettre dans l'ordre et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais très clairement, il y avait une volonté de lutter dès le premier round et dès le début, de façon à casser un peu ce mythe striker contre grappler et lui faire comprendre que c'est pas comme ça que ça va se passer du tout la soirée pour elle.
Ah mais c'est un mythe, c'est comme tu dis, c'est un mythe parce que c'est, on n'est plus il y a 30 ans non plus, hein. C'est pas Arjy Marson contre Royce Gracie à l'UFC 1 avec un seul gant de boxe, tu vois, c'est, ça a changé ces trucs-là les gars dans les analyses quand même. Mais donc il y avait ce truc de, on t'enlève ta principale arme, en gros, en bout d'une minute de combat, on te fait dire, eh ben, toi, ta principale arme, elle n'existe pas, donc on te détruit ta confiance. C'était ça l'idée.
C'est
de ça.
Exactement ça, parce que je pense vraiment qu'elle n'a pas triché dans la Fight Week et tout. Elle, pour elle, elle venait chasser Manon et elle venait l'emmener au sol. Et je pense qu'ils sont restés bloqués dans son équipe sur ce game plan-là, en se disant, elle n'a jamais pris une lutteuse. Et en fait, ils n'ont pas pris la peine d'aller regarder ce qui s'est passé avant l'UFC, parce qu'on avait déjà eu des match-ups comme ça pour la préparer. Exemple, Corinne Laframboise.
Corinne Laframboise, bien sûr.
Et même la petite Argentine qu'elle prend en Gabriela Campo, voilà, qu'elle prend pour la ceinture de l'UFC. C'est une lutteuse qui a fait partie de l'équipe olympique de lutte argentine, tu vois. Et en fait, ils sont restés sur l'UFC, ils se sont dit, elle n'a pas pris de grosse lutteuse, on va la lutter.
Ouais, souvent le problème de ça, de ces analyses, c'est que les gens restent sur cette UFC qui est la lumière, là où on les voit le plus, mais tu as toute la partie avant donc, qui compte aussi et où tu as pu rencontrer des profils similaires. Cette amenée au sol, elle amène la guillotine. Donc on en a parlé parce que c'est le seul moment, moi j'avais dit dans le débrief, c'est le seul moment sur 25 minutes où on peut considérer Manon en danger. Et je mets des guillemets puisqu'on l'a vu qu'elle n'était pas, elle ne se sentait pas en danger, elle le dit elle-même. Comment tu le vis? Parce que tu es au bord de la cage en fait. C'est juste devant toi. Et je sais que j'ai écouté ton débrief sur Fight Minds, que je conseille les auditeurs d'aller aussi l'écouter parce qu'on apprend plein de choses sur la prépa et le combat et l'après-combat. T'es avec elle te rassure tout de suite.
Ouais.
Y a pas de souci dans cette guillotine en fait.
Je te dis la vérité, si j'avais été à 10 mètres dans la diagonale, peut-être que j'aurais pas fanfaronné du tout parce que tu sais jamais comment ça se passe. Mais là, vraiment, elle est à 30 cm de moi. Et elle fait même presque une connerie, si vous voulez voir le ralenti. À un moment, elle lâche le bras pour me faire un geste de la main, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de défendre le bras comme elle le fait, elle lâche le bras pour me dire que tout va bien. Et elle me dit non, mais elle serrait pas elle non plus. Donc moi, j'ai l'impression pourtant qu'Erin, elle essaie vraiment de la prendre. Et maintenant, me dit non, elle serrait pas du tout. On voyait qu'elle essayait d'attendre le bon moment. Donc j'ai la chance d'être à 30 cm de l'action. Je vois qu'elle s'arrête pour faire signe à l'arbitre, qu'elle me fait un signe à moi. Donc non, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Et j'étais vraiment content parce que c'est des situations nouvelles quand même pour Manon d'attaquer, de provoquer un scramble pour revenir en top position. C'est des choses qu'on avait beaucoup travaillé avec Jean-Robert Monnier, Jerry et Flavio Perroba et qui sont sorties crème sur cette phase de combat en tout cas.
Mais c'est intéressant parce que je sais, on en a déjà parlé ensemble pour le coup, mais dans une situation comme ça, toi, de toute façon, la confiance dans les compétences de Manon est suffisante pour ne pas t'alarmer du tout, en fait.
Si je suis à 10 mètres, peut-être que je regarde un petit peu le grand écran et que j'ai un petit frisson, je vais être honnête avec toi. Après, là, honnêtement, on l'avait tellement bossé. Dans le vestiaire, je lui dis, écoute, la seule façon qu'elle a de gagner ce combat, c'est de faire une guillotine. Mais c'est pas une prémonition, mais on l'avait travaillé tout le camp.
Non, et puis on savait, les guillotines de Blanchfield, qui sont d'ailleurs
fini.
Plusieurs formes de guillotine, elle est pas bonne que sur une seule forme, donc c'est une de
bras,
ses armes principales.
Elle prend, comme on dit, à la Cody McKenzie sans le bras, elle est complète là-dessus. Et donc on l'avait vraiment travaillé. C'est des répétitions qui ont été faites à de très nombreuses reprises avec Flavio et Jerry, et on était assez serein là-dessus, très honnêtement.
Flavio Santiago, donc un spécialiste de lutte à livrer qui avait rejoint votre camp et qui va rester pour la suite, si j'ai bien compris. Vu l'apport que ça a donné. Dans ce débrief que tu avais fait, moi j'ai eu deux petites choses qui m'ont très intéressé. Tu disais, elle a fait fermer les bouches. Parce qu'il y avait aussi cette notion du, on l'avait dit au début, elle était favorite des bookmakers, et puis avec le temps, dans les deux dernières semaines avant le combat, le booking s'est retourné. Alors qu'on explique aussi, c'est aux États-Unis qui s'est retourné, que Blanchfield était passé favorite. C'est intéressant d'expliquer, la plupart des paris au départ étaient sur Manon. Et en fait, le système des bookmakers, c'est pas toujours qui est favori. c'est adapté selon le volume de paris. En fait, pourquoi Blanchfield est passé favorite ? C'est parce que le volume de paris était trop sur Manon. Donc, les bookmakers compensent pour essayer de ramener du volume de paris sur Blanchfield. Donc, ce n'est pas une question d'être favorite. Mais tu as dit, elle a fait fermer des bouches. Entre le troisième et le quatrième round, c'est un moment que j'ai assez noté. Tu regardes Manon, juste avant qu'elle reparte au combat, et tu lui dis, maintenant, tu vas leur montrer, tu as le cardio sur 5 rounds.
Exact.
Elle, on l'a entendu dans l'intro, si tu as bien entendu Aldric, au micro de Pierre-Henri, elle dit, j'étais ultra galvanisé quand je me suis fait huer, en allant vers la cage. Tu racontes aussi cette idée du statement de l'amener au sol. Je ne sais pas si tu vois où je veux venir, mais est-ce qu'elle a besoin de ça, Manon ? Est-ce qu'il y a besoin d'être un peu ce côté « nous contre le monde » et tu vois, je vais prouver au monde ce que je vaux.
Je pense qu'elle est encore plus forte à l'extérieur qu'à domicile, vraiment.
Ouais, c'est dans l'idée que je dis, tu vois.
Je pense vraiment que dans l'adversité, elle est encore plus forte. Mais je vais même aller plus loin que ça. Je pense qu'aujourd'hui, Manon, elle a une raisonnabilité dans le fight qui fait qu'on n'a pas vu encore une Manon à 100%. J'explique ce que je veux dire par raisonnabilité. Je pense que tant qu'elle est dominante et qu'elle sait qu'elle gagne les rounds, elle ne va pas chercher plus. Parce que c'est une championne, qu'elle a été éduquée là-dessus, et que pour elle, la prise de risque, tu vois, je pense qu'elle n'est pas encore assez loin dans sa carrière pour aller faire ce qu'a tenté Holloway contre Justin.
J'allais te faire le parallèle tout de suite. Elle n'est pas encore au point de faire une Max Holloway.
C'est ça. Mais je pense que sur certains combats, avec certains match-up, parce que c'est le match-up qui fait le combat, elle peut se retrouver avec une difficulté un peu plus importante. Et là, on verra une autre Manon, parce que crois-moi, elle est très au-dessus encore de ce qu'elle a montré sur les synchrones de Erin, puisqu'elle n'a pas été inquiétée ni en striking, ni sur les déplacements, ni sur la lutte, mais sur une Grasso qui donnerait tout sur un ou deux rounds, ou sur une Tchétchenko qui arriverait à placer un contre, dans l'adversité, elle est encore plus forte que ça.
Et dans cet ordre d'idées-là, toi qui l'as connue bien long avant que les lumières soient sur elle, en Afrique du Sud, quand tu disais comment elle va faire à l'UFC, enfin la télé-réalité d'abord, puis l'UFC, qu'elle gagne contre une Sud-Africaine en Afrique du Sud, la ceinture quand même, ouais. Elle a connu déjà ces situations d'hostilité. Ça l'a toujours galvanisée ? C'est quelque chose qu'elle a toujours eu en elle ?
Alors, en Afrique du Sud, elle prend une fille super forte, qui a beaucoup d'expérience, qui est championne du monde amateur comme elle, qui avait battu Rizlen Zouak, le combat juste avant, sur une guerre atomique. Et tu vois, le fait que ce soit chez elle et tout, ça l'a galvanisée. Elle a fait 5 rounds à fond. Et pareil, les gens ont oublié. Et c'est des choses, en fait, alors, qui énervent Manon, pas au point de lui enlever sa lucidité, hein, mais entendre qu'elle était fatiguée au troisième contre Rose, alors que c'est le coup de tête qu'elle prend qui la déstabilise. Entendre certaines critiques de médias et de podcasteurs, que ce soit français ou outre-Atlantique, ouais, ça la pique un petit peu. Et elle a envie, en tout cas, que le fruit de son travail, pardon, soit mis en avant et encensé, et que ce genre de critique, ça la touche un petit peu.
Non, mais c'est bien, parce que chacun trouve aussi des formes de motivation dans différentes choses, et ça peut être une forme de motivation, ça aussi. Hein. Je vais te titiller au bout sur cette question-là. Si, on va dire, on fait de l'hypothétique, Grasso conserve sa ceinture contre Shevchenko, c'est elle qui reste la championne. Il vaut mieux, pour que Manon soit au mieux du mieux dans sa tête, il vaut mieux Grasso Shevchenko... Grasso contre Fioro à Paris ou à Mexico ?
Non, Mexico ou Vegas, c'est encore mieux.
Tu vois ce que je veux dire ?
Pour écrire le livre, c'est encore mieux, je pense.
Ouais. Et même pour elle, tu penses qu'elle serait plus à l'aise encore dans une situation d'hostilité ?
Ouais. Je pense qu'elle sera encore plus forte si c'est à l'extérieur. Ouais.
Dernière question sur ce fight, Aldric, sur ce fight contre Erin Blanchfield. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a surpris ? Parce que toi, tu connais Manon, ça fait quasi 10 ans que tu es avec elle en termes d'entraînement. Tu sais ce qu'elle vaut, tu sais les compétences qu'elle a. Mais est-ce que dans cette domination de synchrone, il y a des moments où toi, en observateur au bord de la cage, tu t'es dit, quand même, elle est sacrément forte ?
Si tu veux, à un moment, elle prend quand même quelques coups. Et je me dis, la gestion de ça, t'as certains combattants, quand ils sont touchés, ils cèdent tout de suite à la panique, ils vont plonger dans les jambes et tout. Et moi, ce que j'aime bien vraiment, là où elle me surprend, c'est sa façon d'appréhender. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment que sur peut-être 90 momentum qui sont produits sur 5 rounds, elle en a gagné peut-être 88 et il y a une ou deux séquences pour Erin. Et sur ces une ou deux séquences, elle est calme, elle est posée, elle panique pas. Et ouais, ça me surprend toujours, parce que même si 4 rounds se sont passés merveilleusement bien, il y a un truc au 5ème, non, elle reste hyper calme, elle fait jamais l'erreur, le déplacement de trop n'arrive jamais. Et comme on le disait, le fait de fermer des bouches, c'était pas tellement sur le favori, pas favori, c'est qu'il y a beaucoup de podcasteurs américains notamment qui ont dit, ouais, si ça va au sol, c'est une catastrophe, Erin va la manger. Et c'est pas agréable à entendre quand vraiment t'as quelqu'un
quand
qui...
Quand ça fait 10 ans que tu bosses
Tu travailles tous les jours avec énormément d'intensité et de dévotion. Et c'était surtout sur ce côté-là qu'on parlait de fermer des bouches, tu vois.
Et à l'inverse, je sais que t'es très perfectionniste. Est-ce qu'il y a un point du combat que, dans le débrief, tu lui as dit, ça, il faut qu'on améliore encore ?
J'ai sélectionné 23 séquences sur lesquelles il faut qu'on rebosse ou on peut mieux faire.
23 séquences,
vraiment.
On est quasi à une séquence par minute, hein, puisqu'il y a 25 minutes de combat.
Il y a 23 séquences. Alors, c'est, tu sais, c'est, des fois, c'est, ça peut être en fait la même séquence, la séquence d'entrée de corps à corps et la séquence de sortie, mais il y a 23 petits trucs sur des déplacements, sur des mises de main, où, à mon avis, on peut faire mieux, encore mieux.
Et très intéressant, parce que tu en parles, je ne l'avais pas prévu, mais tu parles de ces sorties, de ces ruptures aussi de corps à corps. Je ne sais pas si tu, comme je sais que vous étiez très occupé, je ne sais pas si tu avais écouté la preview qu'on a fait avec Baba, mais on l'avait noté, c'est un des points qu'on a noté. Parce que contre Maya, comme contre Choukagian, elle prend les seuls kicks qu'elle prend, les seuls moments où elle est mise en danger dans le combat, c'est en sortie, c'est en rupture de contact. C'est un point que tu as analysé ? C'est un point qui est un des dangers autour de Manon ?
Comme je l'avais dit sur la précédente émission qu'on avait fait, moi je regarde d'abord ce que va faire le coach. J'essaie d'anticiper ce que va faire le coach adverse avant de penser à comment moi je vais faire mon game plan. Et du coup, je suis content parce que normalement, il peut se passer deux prépas pour voir les progrès que ton athlète a fait. Et là, elle a été dangereuse sur les sorties. Il y a des coudes qui sont passés pas très loin. Elle n'a jamais été mise en danger. Les mains... Moi, je pense qu'il y a eu énormément de progrès. Les mains étaient hautes, c'est ça que je voulais dire juste avant. Et je pense que là, sur ce camp, les progrès effectués sont conséquents. Et ce sera encore mieux. Je pense que d'un pseudo défaut, parce que c'était pas le cas, mais c'était des mises en danger, on va arriver à carrément dominer toutes ces séquences maintenant, donc je suis très content là-dessus.
Avant qu'on parle de l'avenir, bien sûr, et de cette ceinture qui intéresse Manon fortement et tout le MMA français clairement, je voulais rester sur Manon et ses qualités, et ce qu'elle a montré dans ce combat-là, mais plus globalement. Elle est devenue 7 victoires de suite depuis ses débuts à l'UFC. C'est la deuxième plus grande série de l'histoire des moins de 57 chez les femmes, derrière les 9 de Valentina Shevchenko. Vous avez conscience de commencer à marquer l'histoire ? Vous êtes à 2 combats d'avoir la plus longue série de l'histoire de cette KT.
Franchement, on en aura conscience quand Manon l'aura accompli ce qu'elle peut accomplir. C'est pour ça que c'est important. Avec la pression ne monte pas, hein, mais on continue. On sait qu'on est sur le bon chemin. Manon, elle peut faire ce que Valentina a raté, c'est-à-dire qu'elle peut faire les deux KT. C'est une certitude. Kayla Harrison ou pas Kayla Harrison,
on va en reparler.
Persuadé que Manon, elle peut faire les deux KT. Et pour le moment, on prend combat par combat.
Mais il y a le temps de s'arrêter, en fait ma question elle était un peu, il y a le temps de s'arrêter, même si voilà, c'est la grande lessiveuse, le combat, bah, tu finis un combat, tu te projettes déjà sur la suite, d'autant que la suite là elle est tellement prestigieuse et belle, mais il y a le temps de s'arrêter et de se dire c'est bien ce qu'on a fait quand même.
Ouais, bien sûr, je pense qu'il faut profiter de ces moments où tu n'es pas encore en camp et tu te dis quand même ce que j'ai accompli, c'est beau, et je pense que le meilleur moment pour un combattant c'est justement cet après-combat où tu as gagné ton combat et où tu es félicité. Je pense que c'est vraiment le moment le plus important pour le moral, pour la legacy d'un fighter, c'est ses post-fight, parce que c'est le moment où il n'y a pas de souffrance. Ils profitent et ils savourent surtout ce qu'ils ont effectué, ce qu'ils ont accompli. Donc je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour un athlète.
Vous avez aussi, après ce combat-là, vous avez réalisé quelque chose qui est inédit dans le MMA français. Il y a un site qui s'appelle Fight Matrix, que tous ceux qui suivent le MMA connaissent, qui est un site de référence comme les Tapologies, et qui fait son classement mondial. Qui est pour le coup, c'est un classement mathématique. Tu affrontes tel adversaire, tu prends tant de points parce qu'elle vaut tant, parce qu'elle est classée tant. C'est l'équivalent de l'ATP en tennis. En fait. C'est un système de points. Manon est passée numéro 1 des moins de 57 au monde. Donc devant Grasso, devant Shevchenko. Numéro 2, pound for pound. Toutes catégories confondues. Il n'y a que Wei Lizhang, la championne des moins de 52, la chinoise, qui est devant. C'est une fierté, ça. Vous êtes le premier français à être numéro 1 d'une catégorie. Même Cyril, qui était numéro 2 parce qu'il y avait encore de Francis Ngannou, puis John Jones qui est repassé devant, vous êtes les premiers à être numéro 1 d'une KT et les premiers à être sur un top 3 pound for pound, enfin tu vois, une des deux premières places. Il y a une fierté de ça.
Ouais, vraiment. Et c'est pas grave si je me fais casser du sucre sur le dos, mais pour moi, il n'y a même pas débat avec Welling. Manon, elle est très nettement au-dessus. Et, preuve en est, Welling, quand même, sur ses 5 derniers combats, il y a des défaites, notamment contre Rose Namajunas, même si ce n'est pas la même KT qu'avec Manon. Mais je pense que Manon, elle est beaucoup. Si tu analyses séquence par séquence, elle a été beaucoup moins mise en danger lors de ses combats que ne l'a été Welling. Et c'est une grande fierté parce que c'est ce qu'elle mérite. Rappelle-toi, déjà, après le combat contre Maya, en conférence de presse, elle avait dit qu'elle était meilleure que Valentina. Ça avait beaucoup amusé certaines critiques. Mais c'était déjà le cas. Et maintenant, elle va le prouver.
Et en fait, ce qu'on explique aussi, parce que j'ai vu passer quand il y a eu ce classement-là, des gens qui disent « mais elle n'est pas championne, comment ça peut arriver ?» C'est une question de points et donc de run. Ce que veut dire ce classement, c'est que le run, les 4-5 dernières adversaires de Manon, il n'y a personne dans le monde qui a un tel run. Victorieux, en tout cas, on peut mettre une Shevchenko, elle a affronté des adversaires d'un même calibre, mais elle a 2 défaites. Enfin, elle a une défaite contre Grasso et un match nul. Donc en termes de run de victoire, il n'y a pas plus beau que ce qu'a fait Manon dans le monde, dans sa catégorie, sur les 5 derniers combats. On est d'accord.
Et puis même quand tu recontextualises, on va mettre de côté juste le premier combat d'une Victoria Leonardo qui est pas mal, attention, hein. Même si elle a été blessée après, qu'elle n'a pas eu le run qu'elle devait avoir à l'UFC. Mais sinon, elle a pris que des filles classées. C'est-à-dire que Tabata Ricci, elle a été classée 10e à 52. Mera Bueno Silva, elle a fait la ceinture à 61. C'est son troisième combat, hein, déjà. Mais, Jennifer Maya, elle était 4e au moment où elle prend Manon. Kathleen Serminara, elle était numéro 1. Elle reprend Rose, qui est 4, je crois, par une fois par an, et 2 des 52 derrière à Paris. Et là, elle prend Blankfield, qui nous était passé devant, on ne sait même pas pourquoi. Donc, tu vois, sur ces 6 derniers adversaires, ces 6 filles du top 15, certes, ce n'est pas forcément la KT où évolue Manon, mais je pense que même le run, il n'a pas du tout été favorable. On en parlait déjà à l'époque de Blankfield, tout le monde disait non, mais elle a pris Andrade, et elle a pris Santos, elle a eu des combats plus difficiles. Pas du tout,
non,
en fait.
Non, nous, on l'a dit.
Vous l'avez dit, ouais. Mais vous êtes les seuls. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont laissés avoir par les deux derniers noms. Et même ce qu'elle a fait à l'UFC, le parcours était déjà très difficile.
C'est la culture de l'instant aussi, hein, tu connais. Surtout dans ces milieux-là, c'est très compliqué ça. Et pour toi, puisqu'on va y aller, puisque tu dis elle est numéro 2 de ce classement pound for pound, et tu dis qu'elle est meilleure que Willy. C'est la meilleure combattante au monde, ouais, Manon Fiorot. Et il y a que la ceinture. Enfin, la ceinture le prouvera aux yeux du monde, mais c'est la meilleure combattante de MMA, ouais, de la planète.
Bien sûr. C'est la meilleure mondiale, Manon, et la plus complète. Et au moment où on se parle, il y a des critiques dont je... qui m'interpelle, il y a des critiques auxquelles j'ai envie de répondre. Intéressez-vous aux critiques qui étaient faites à Georges Saint-Pierre sur la fin de sa carrière. Et bien sûr qu'elle ne finit pas forcément ses combats parce qu'elle reste dans une maîtrise et une prudence qui est qu'elle n'a pas envie qu'arrive justement de Max Holloway, Justin Gaethje ou de Lucky Punch, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, même si tu es en maîtrise. Combien de combats on a vu où la maîtrise était totale et où il s'est passé une dinguerie à 3, 4 ou 2 minutes de la fin? Donc oui, c'est peut-être pas la meilleure finisseuse.
Mais c'est un débat qu'on a eu, c'est marrant d'ouvrir ce débat parce que je l'ai eu en plateau après le combat de Manon. Quand on a débriefé, il y avait notamment Mickaël Lebou qui était là et je comprenais sa nuance. Il disait, aux yeux du promoteur, tu finis pas, t'es moins spectaculaire que d'autres. Bien sûr, on le voit, quelqu'un comme Benoît Saint-Denis qui a fini tout le monde, il a grimpé très vite parce que c'est bien sûr que pour le promoteur c'est spectaculaire. Mais il y a trois façons de gagner en MMA. KO, soumission, décision. Il n'y a pas une victoire qui vaut moins que l'autre tant que ça gagne et que le run continue. C'est l'essentiel.
C'est ça. Puis Manon, elle a encore envie de faire ça au moins 4 ans. Elle a un capital santé qui est entièrement préservé. Et je pense qu'arrivé à un moment, quand elle aura atteint une certaine légitimité, en tout cas atteint ses objectifs, je pense qu'elle se lâchera encore plus.
Dans la review, on a aussi dit ce qu'on complète là, que c'est une des combattantes donc les plus complètes de la planète, qui n'a pas encore vraiment montré son sol. On va ouvrir ça juste après. Ça se voit sur ces trois derniers fights. En fait, est-ce que tu peux nous l'expliquer, Aldric? Mais moi, quand je revois les trois derniers fights, que j'ai revu un peu en speed pour repréparer ça, c'est trois Manon différentes. Dans le style, dans la façon d'aller chercher la victoire. Donc on parle de Blanchfield, Rose Namajunas, Kathleen Shukregan.
Et même si tu élargis à 4 Maya, tu n'as pas la même Manon. C'est-à-dire que si tu t'intéresses à le mettre sur un écran d'ordinateur, tu le splits en 4 et tu lances les 4 combats en même temps, tu ne vas pas avoir la même gestuelle, pas avoir les mêmes appuis, pas avoir les mêmes setups d'entrée et de sortie. Donc j'en suis très fier de ça parce qu'on arrive vraiment à adapter.
Ouais, c'est de l'adaptation, ouais, toujours à ce que fait, ouais, l'adversaire.
Vraiment, on s'adapte à l'adversaire. Après, c'est vrai que c'est Manon, comme elle est vraiment très complète, on peut aller chercher des choses très très loin, même au niveau des setups de déplacement, des feintes et de tout ce qui va avec. Mais même sur la qualité du footwork, c'est pas les mêmes.
Et en fait, la conséquence de tout ce qu'on dit là, Aldric, selon toi, c'est plus difficile beaucoup plus difficile pour les adversaires de Manon de, ouais, s'adapter à Manon que l'inverse.
Très clairement, parce que elle est gauchère. Donc sur tous les setups de lutte, c'est hyper compliqué à mettre en place. Ensuite, ses déplacements, comme je le disais avant, c'est pas les mêmes sur les 4 derniers combats. Donc si tu veux la cadrer, il va falloir essayer de spéculer sur le déplacement qu'elle va utiliser au moment du combat. Donc je pense que ça rend vraiment la tâche très difficile. Et comme tu l'as dit juste avant, le sol, c'est inconnu.
Ouais, c'est une inconnue.
Donc c'est encore. Je pense que c'est bien d'avoir gardé ça.
On connaît pour l'instant ses défenses de lutte. On l'a vu. On a vu la qualité qu'il y a dedans. Le sol pur, et voilà, il n'y a eu pas de séquence qui nous le montre. Le coach que t'es, il a un grand sourire de ça parce que moi, je me dis que pour tout match-up qui va venir, le coach d'en face, il a une galère en plus. Il a une inconnue en plus que toi, tu n'as pas forcément.
C'est ça. Et en plus, il y a des cases qui étaient cochées que tu es obligé de décocher. Tout le monde était Manon, c'est une weight bully, elle ne tient pas sur la distance. Donc cette case-là qui était cochée, qui était quasiment acquise pour toute la concurrence, il faut la décocher.
Ouais.
Parce qu'elle a quand même montré. Et en plus, sur le sol, il y a une grosse interrogation. Est-ce que tu es capable de la garder? Est-ce que tu peux risquer de capitaliser sur un game plan où tu la gardes au sol si c'est impossible de la tenir au sol? Est-ce qu'elle est efficiente? Est-ce qu'elle a un sol de soumission? Est-ce qu'elle a un sol de scramble? Ça, il faudra l'emmener au sol pour pouvoir avoir une réponse à cette question. Moi, je sais.
Je sais que tu sais, un des analystes, un compte américain qu'on suit beaucoup, je sais qu'on partage, toi et moi, comme avec les gars de Fight Minds, Jack Slack, qui fait des superbes analyses techniques de MMA, il a fait une vidéo où il dit que c'est la meilleure grappleuse de la KT. On l'a pas encore vu, mais que sur ces, techniquement, les séquences qu'il montre, prouvent qu'elle est la meilleure grappleuse de la KT. C'est quelque chose que tu partages?
Oui, et surtout, c'est quelque chose, il faut beaucoup de... En plus, il fait le détail en vidéo. Alors, c'est des vidéos qui sont difficiles à trouver, mais qui sont payantes, malheureusement, pour le grand public. Néanmoins, c'est hyper flatteur, parce que le dire, bah, c'est appréciable, mais lui, il le montre.
Oui.
C'est-à-dire qu'il fait voir des séquences sur des hip-throws, c'est-à-dire des hanchés, où il y a beaucoup de combattants, hommes ou femmes, qui font la faute d'enlever ce qu'on appelle le underhook, c'est-à-dire le bras qui est sous l'aisselle, et où Manon, elle le replace, où elle joue avec le wizard, c'est-à-dire elle le repasse de l'autre côté. Et il explique pourquoi c'est la combattante la plus technique.
Oui, c'est pas juste un avis.
C'est ça. Il dit pas, il jette pas ça comme ça, comme tu jettes un caillou à la mer, il dit c'est la meilleure grappleuse. Non, il explique les fautes que vont faire Valentina.
Mais au final, ça m'embête, parce que je sais que c'est un mec comme Jacques Slack, il n'y a pas que toi, hein. Tous les coachs, les plus meilleurs coachs du MMA mondial, ils connaissent ce mec-là, c'est sûr. Ça t'embête qu'on le montre?
Alors,
tu vois ce que je veux dire?
Je suis flatté, mais c'est vrai que si on peut éviter de mettre en avant certains trucs, c'est bien. Mais après, c'est le jeu. Elle a 7 combats à l'UFC. Maintenant, je pense que si on s'amuse à totaliser, elle a passé plus qu'un match de football entier dans la cage de l'UFC. Donc. Mais on brouille encore les pistes parce que ce n'est pas la même Manon que tu vois. Mais il y a de la data sur Manon, c'est évident.
Mmh. Et c'est de la technique, ce qu'on est en train de dire là. Parce qu'on peut aussi dire, Manon, elle est impressionnante physiquement pour les moins de 57 kilos. Donc ça pourrait jouer. Pour toi, c'est la technique qui joue beaucoup plus que le physique, là, on est d'accord?
Ah non, là, c'est la technique, clairement, parce que le placement des mains, ce n'est pas instinctif. Mmh. Tu peux laisser place à l'instinct sur une roulade, sur un ensemble de choses qui vont se passer sur une situation. Mais là, on parle de placement de bras et de mains. Et là, on est vraiment sur de la technique pure et dure.
On va passer à la suite, Aldric, parce que c'est bien sûr intéressant. Je vous cite, je te cite. On n'attendra pas 2025 pour combattre. Manon veut rester active. Oui. On fait un point rapide sur la situation. Manon est devenue la challenger, il n'y a plus de doute. Voilà, c'est le petit doute qu'il y avait avec Blanchfield, il a été dissipé à Atlantic City. Grasso et Shevchenko vont se retrouver pour un troisième combat, puisque c'est fini sur un match nul. Le deuxième, on rappelle, après la victoire d'Alexa Grasso au premier. Elles sont les deux coachs du TUF, The Ultimate Fighter, l'émission de télé-réalité de l'UFC, et donc qui commencera à être diffusée en juin. La diffusion dure deux mois et demi, si je ne dis pas de bêtises, qui correspond.
Exactement.
C'est pas encore officiel, mais tout porte à croire qu'elles combattront à la Sphère, UFC 306, week-end d'indépendance mexicaine, donc c'est mi-septembre, à Las Vegas, la nouvelle grande salle en boule de Las Vegas. Ça va sans doute être un événement hyper impressionnant. Donc il faut de toute façon attendre ce combat-là pour ensuite pouvoir imaginer un title shot fin d'année au mieux, début d'année 2025 au pire, selon comment elles sortiront du combat et la championne. Qu'est-ce qu'on fait là, Aldric? Si c'est le cas, tu vois, si ça peut pas, on va dire, allez, Grasso ou Shevchenko sortent championnes, mais elles sont un peu touchées physiquement, donc c'est pas tout de suite, il faut attendre février, mars 2025. Manon, elle veut pas attendre ça?
Non. Elle ne veut pas attendre ça.
Donc,
mais
qu'est-ce qu'on fait?
Elle estime aussi... Alors, moi, pour l'instant, j'ai très brièvement discuté avec Hunter Campbell. Mmh.
Donc, je vais avocat de l'UFC et le matchmaker des stars de l'UFC aussi.
C'est lui qui gère maintenant Manon aujourd'hui sur ses renouvellements de contrat et même sur le sponsoring, puisque c'est juste une anecdote, mais VeChain, qui est le plus gros sponsor de l'UFC, vient de prendre Manon en direct depuis quelques semaines en sponsoring.
C'est une des ambassadrices de VeChain.
Ouais. Ouais.
Et c'est les petits signes, hein, en fait.
C'est
des petits signes, mais qui comptent.
Non, il y a du respect. Je l'avais déjà dit, effectivement, sur le match-up, on a dû faire face. Bah, Manon s'est blessée, il y a eu un match nul, il y a eu pas mal de choses. Et du coup, certaines personnes ont pris des raccourcis, comme d'habitude, en disant « Ouais, Manon, elle n'est pas respectée par l'UFC. » Non, moi, j'étais revenu, c'était déjà sur ton antenne, j'avais dit « Non, Manon est respectée par l'UFC dans les choix, dans le renouvellement de ses contrats et dans la façon dont elle est traitée.
Ouais, »
Cet aparté mis à part, pour le moment... Il n'y a rien de décidé. Cela étant, l'option hypothétique d'un backup nous convient vraiment.
Donc d'être remplaçant. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça arrive pour des title shots. C'est-à-dire qu'on a un officiel remplaçant qui fait la pesée, qui prépare le combat comme les deux autres combattants. Et puis s'il y a une blessure ou quelqu'un qui rate la pesée, hop, on prend la place.
C'est ça. Pourquoi cette option, c'est celle qu'on veut et qu'on va viser en priorité, hein, très honnêtement. Raison numéro un, ça oblige Manon à être active sur l'été de façon à faire un camp, parce que ça se prépare, hein. Tu ne viens pas juste faire le poids, hein. c'est pas une prépa uniquement axée sur le conditioning, backup.
Je vais dire une parenthèse, je t'ai donné de te couper, c'est même une prépa plus compliquée, parce que tu ne prépares pas qu'une adversaire,
c'est ça.
T'en prépares deux.
Mais c'est compliqué pour les filles aussi, si jamais le backup vient à être mis en avant, c'est compliqué pour les autres filles aussi qui n'ont pas préparé ça. Donc cette option nous plaît pour la raison première, Manon est active. La raison numéro 2, bien évidemment, bah Manon serait rémunérée, donc il ne faut pas se le cacher, hein, ça rentre aussi en compte. Mais surtout, l'option numéro 3, c'est quoi? C'est que, ok, la probabilité que le backup soit actionné est faible, mais s'il y a une blessure en camp, moi je suis persuadé que c'est Manon qui prendra le combat. Ils ne vont pas encore risquer de repousser. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y a une des deux filles qui se blesse en juillet ou en août, moi je suis intimement convaincu que c'est Manon qui reprendrait le fight et que le combat ne serait pas décalé à novembre ou à décembre. Pourquoi ? Grâce au fait qu'elle est numéro 1, grâce au fait qu'aujourd'hui elle est légitime. Et c'est pas... Parce qu'on a plusieurs contre-exemples. Il y a Gamrot qui a été backup, mais c'était plutôt un backup de substitution. C'est vrai que c'est pas lui, Mateus, qui a eu le title shot après, mais on s'est bien rendu compte que là, c'était un peu différent des autres fois.
Un exemple parlant, je trouve récemment, c'est Pavlovitch.
Ouais.
Backup à New York à l'UFC 295 de Jones-Miocic. Jones se blesse, ils annulent le combat parce que Miocic ne veut pas prendre Pavlovitch, mais Pavlovitch se retrouve dans un combat de ceinture intérimaire contre Aspinall.
C'est ce que je pense. Donc c'est pour ça que cette option nous convient. C'est celle qu'on va privilégier. Après, c'est peut-être pas celle qu'on aura. Hein. On n'a pas non plus.
C'est en discussion déjà.
Ça a déjà été évoqué.
Ok.
Ça a déjà été évoqué.
Ils sont sans. Enfin, tu dévoiles ce que tu veux dévoiler, mais ils sont ouverts à ça.
Ah, ils n'ont pas dit non.
Ouais. Ok.
Ils n'ont pas dit non. Puis je pense que ça peut, même d'un point de vue show et spectacle, ça permet à Manon, si elle ne combat pas, de pouvoir rentrer dans la cage à la fin et de pouvoir commencer à vendre le combat pour la ceinture.
D'être en bord de cage pour les regarder combattre.
Pour nous, c'est énorme aussi, parce qu'il n'y a pas la même data quand tu es en live et quand tu es à la télé. Donc aujourd'hui, c'est l'option qu'on privilégie. Maintenant, s'il faut, il va y avoir un renversement de situation et pourquoi pas une ceinture intérimaire à Paris. Mais je pense que Manon a mérité ça,
ouais.
et qu'il n'y a pas du tout à être flexible sur le reste. Je pense qu'ils veulent vraiment Manon à Paris, bah mettez une ceinture.
T'y crois ou pas ? Moi, on en a parlé dans la review ici. Moi, j'ai dit j'y crois pas à la ceinture intérimaire, dans le sens où s'il n'y a pas de blessure, bien sûr, s'il y a une blessure, pourquoi pas ? S'il n'y a pas de blessure...
Non, mais je pense qu'elle ne sera pas à Paris s'il y a une blessure. Elle sera dans la foulée au même événement.
Au même événement ?
Ouais.
Ouais, okay. Oui, voilà. Ouais, sur l'événement
si
de la sphère.
Mais tu vois ce que je veux dire,
s'il n'y a pas de blessure, tu as un poster avec Grasso Shevchenko pour le titre incontesté, tu ne vas pas faire un poster pour une ceinture intérimaire 15 jours plus tard
non,
à Paris.
Je suis d'accord.
Donc j'y crois pas.
Non, mais
dans un cadre où il n'y a pas de blessure, j'y crois pas.
Mais je l'ai dit, Alex aussi, j'ai dit que je pense que si je suis à Paris, ce ne sera pas pour être dans le coin de Manon.
Oui. Donc, on va en reparler aussi. On va en reparler aussi.
Je pense pas, honnêtement, je pense, j'espère que je ne froisse pas les supporters et les gens qui suivent Manon, mais il y a très très peu de chances qu'on voit Manon à l'UFC Paris.
Ouais, bien sûr. Elle a dit, elle, c'est la ceinture ou rien. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que si dans le pire des scénarios, il n'y a pas de blessure, l'UFC ne veut pas te faire intérimaire, mais elle veut combattre, ils lui disent que le title shot ne sera pas avant février ou mars 2025, donc Manon veut rester active. L'UFC te dit, il n'y aura pas de ceinture intérimaire parce que la championne n'est pas blessée. Il n'y a que Messi Barber possible à Paris, voire ailleurs, voire tu vois, en fin d'année aux États-Unis, à Vegas ou à New York ou quelque chose comme ça. Vous prenez ?
C'est
tu vois, vraiment, c'est hypothétique, dans le sens où toutes les autres options sont...
Honnêtement, pour le moment, on n'a pas posé cette question de cette façon à Manon. La seule chose que je peux te dire là-dessus, c'est que certes, elle veut combattre pour une ceinture, mais elle a aussi demandé à être active et elle n'est absolument pas, apeurée par le match-up de Barber. Et moi aussi, je suis hyper favorable. Je pense que Messi Barber est moins forte que Erin Blankfield. Et vraiment, j'en suis intimement persuadé. Et c'est pour ça que c'est toujours bizarre les combats de Manon. Parce que maintenant que Blankfield a été balayé par Manon, les gens, au lieu de mettre en avant la performance de Manon, ils pensent que Blankfield, c'était que de l'eau. Et qu'en fait, c'est la hype qui est... Non, Blankfield est très forte. Manon l'a dit chez Ariel. Et on le pense tous, elle sera championne.
Ouais,
elle sera
jour.
Championne.
Elle a 25
Manon
ans.
Ouais. Pourra arrêter et pas avant. Maintenant, si tu me demandes si Erin Blankfield finit Barber, oui, sans aucune hésitation.
Ouais, je pense aussi.
Donc, s'il faut la prendre, on ira la chercher. Mais pour l'instant, la question n'a pas été posée à Manon de ce coup-là. Mais par contre, Barber ne lui fait absolument pas peur.
Non, mais je vais pas révéler un énorme secret. Mais la dernière fois que j'avais eu Manon au téléphone, et elle m'avait dit s'il faut étendre une autre petite américaine prospect, il n'y a pas de souci.
Ah non, donc, mais le match-up nous est hyper favorable. Sincèrement, un combat. C'est toujours risqué, il y a toujours des risques, et c'est normal.
C'est un combat,
que même quand tu es ultra favori, c'est 80-20 ou 90-10, ta cote, entre guillemets. Mais non, sur Barber, on n'est pas du tout inquiet sur le match-up.
Ça vous embêterait de rater Paris quand même ? Deuxième fois en trois éditions ou pas ?
Bah, si c'est pour...
Parce que c'est aussi un business, hein, tu vois, pour les sponsors, pour tout, c'est hyper important de faire à domicile.
Non, mais pour la ceinture, je pense que l'intérêt de Manon, il est d'aller vers la ceinture.
Oui.
Même d'être back-up.
Pour le coup, ouais.
Parce que le public américain, il reste beaucoup dans la culture de l'instant quand même.
Mm.
Et le fait d'être backup, ça peut aussi faire connaître encore Manon encore plus, notamment aux téléspectateurs.
Pour le public américain, plus qu'être à Paris,
bien sûr. Il ne faut pas s'engager. Ouais. Paris, c'est des heures qui ne leur conviennent pas au niveau décalage horaire.
Non, pas du tout.
C'est pas
Et la sphère va être un événement hyper regardé,
exactement.
Comme c'est à la sphère. Et
comme toujours, les finales du TUF, il y a tous les gens qui ont regardé sur ESPN et tout, donc ça t'ouvre vraiment sur un nouveau public.
C'est génial, c'est la noche UFC. Week-end d'indépendance Mexique, ouais. Tu auras un gros public latino devant. Si Grasso conserve sa ceinture, Personnellement, je pense que ça peut fortement arriver, même si Valentina est surtout pas perdante d'avance. Mais si elle la conserve, tout le public latino et mexicain aura découvert aussi Manon via ce bac, enfin un peu plus. Et donc, il y aura cette idée, tu vois, ce match-up sera plus que logique dans la tête des gens. On en a parlé aussi ici. J'avais donné l'idée deux fois en me disant je vais voir s'il m'écoute. Moi, j'avais l'idée de dire, quand elle bat Blanchfield, puisqu'elle a connu, puisqu'on rappelle, si elle ne se blesse pas au genou contre Choukagian, c'est Manon qui a le title shot début 2023 et non Alexa Grasso. S'il n'y a pas le match nul après Rose Namajunas, c'est Manon qui a le title shot après. Donc pour l'instant, comme tu dis, ce n'est pas un manque de respect de l'UFC, c'est circonstanciel. Les circonstances ont fait que. Pourquoi pas avoir call-out Raquel Pennington aussi, la championne des moins de 61. Moi, c'était mon idée, c'est de dire, on est là pour la ceinture des moins de 57, mais comme on sait que tout peut arriver, on l'a vécu, nous, depuis deux ans, Pennington, si tu veux à la place, on prend.
Alors, on y a vraiment pensé fortement. Ouais. Après, au niveau de la carrière de Manon, j'en parle avec elle en priorité, et je collabore aussi avec deux grands noms du MMA mondial, qui sont Nima Safapour et Majdi Chamas. Et
manager de Ramzat Chimaev notamment,
qui est un ami et avec qui j'ai des relations de travail et d'affaires, et on a décidé de ne pas s'éparpiller.
Okay. Quand on montera, ce sera définitif.
Exactement. Okay. C'est-à-dire que si jamais on nous propose un pull-out de dernière minute, on réfléchira, mais quand même la grande priorité, c'est de faire les 3-4 combats qu'il y a à faire en 57, parce que pour Manon il y a vraiment que ce soit qui gagne, elle veut prendre les deux. Je pense que même si c'est Tchachenko, il faudra reprendre Grasso derrière, au moins pour qu'il y ait pas. Les gens ne disent pas. Oui, mais si elle avait pris un tel.
No doubt.
C'est ça. Ouais. Je pense que Barber, effectivement, si elle, il faut qu'elle. Il faut pas laisser. Si tu montes à 61, il faut avoir cliné toute la catégorie.
Donc, les trois noms que tu as dit, une fois que tu as fait ça, si c'est trois victoires de Manon, tu as cliné tout.
C'est ça. Alors après, s'il faut accueillir Welling pour, à 57 une fois avant de monter pour boucler la boucle et que les gens ils voient vraiment la différence qu'il y a entre les deux, elle le fera. Et puis effectivement, à 61, il y a des trucs intéressants. Il y a Raquel Pennington. Moi, je vais en surprendre beaucoup, mais préparer un game plan contre une Kayla Harrison, c'est quelque chose d'ici un an ou deux qui me plairait énormément aussi. Il y a pas mal de choses qui sont faisables pour Manon. On va encore me prendre pour un fou, mais je suis très très confiant pour la suite.
Non, mais t'as raison, parce que la situation des moins de 61, mon analyse aurait évolué en 15 jours. Parce qu'après l'UFC 300, tu sens très bien ce que veut faire l'UFC. Kayla Harrison arrive, il lui donne Holly Holm à 42 ans, qui est parfait pour qu'elle brille. Il la monte directement quatrième. Tu sais qu'elle va avoir le title shot très vite et qu'ils veulent qu'elle soit championne pour sortir Nunes de la retraite et faire Harrison Nunes. Donc maintenant, les moins de 61, le chemin, il est balisé pour Kayla Harrison. Quand tu vois quand même une Kayla Harrison, la façon dont l'UFC le fait, ce que je viens de raconter, tu te dis, on n'est quand même pas tous traités à la même enseigne. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais comme
tu dis, il y a du favoritisme dans un certain sens. Bah, Kayla Harrison, elle peut être en title shot à son deuxième combat à l'UFC. Personne ne va rien dire.
Il pousse, mais après, j'ai envie de te dire, elle est double. Son palmarès en judo est supérieur à celui de Ronda Rousey. Elle est double championne olympique. C'est un nom. Et les Américains, ils sont très attachés à l'olympisme et à ces athlètes qui font la bascule. Donc, moi, je leur trouve une certaine logique, il faut être honnête.
On boucle le dossier Manon Fiorot. Aldric, il nous reste quelques petites minutes. Je voulais quand même parler aussi du Boxing Squad de façon générale. Avant de parler de Virgil Hogan et d'Axel Sola, qui t'as commencé à les évoquer tout à l'heure avec un petit sourire. Mais déjà sur le global, parce que le combat de Manon et les derniers nous ont montré, comme le combat d'Axel Sola contre Younoussov à Arès, ce que tu dis tout le temps. On en a parlé quand on t'a reçu ici, le chain wrestling, le cage control, où tu nous avais dit ici que tu aimerais bien avoir des ceintures pour le cage control, parce que c'est quelque chose qui te tient très à cœur, le footwork, les scrambles. C'est les quatre points sur lesquels tu as toujours insisté, dont tu nous as toujours parlé ici. Pourquoi? Pourquoi tu es si sensible à ces deux aspects-là? J'ai vu une phrase de toi que j'adore, tu dis, sur le cage control, on est en 2032 au Boxing Squad. Donc pourquoi tu as eu ça? Pourquoi, tu vois, d'où ça t'est venu?
C'est de l'analyse au départ. C'est-à-dire que quand tu regardes bien, il y a les combats de très haut niveau, ils se jouent souvent sur ces séquences-là, en fait. Souvent,
le MMA moderne, ouais,
une dépense énergétique qui est trop importante sur des phases de cage control, que ce soit en défense ou en attaque, tu vois. Il y en a un des deux qui va dépenser trop d'énergie, et puis derrière, sur les phases qui suivent,
qui va se faire punir en rupture derrière.
Exactement. Ouais. Et c'est là qu'un combat, en tout cas, se gagne ou se perd. C'est pas forcément là que les gens ils vont rester attachés, on le disait, à la culture de l'instant. Il va y avoir un KO 3 minutes après, mais ils vont pas se dire que ce chaos, c'est la résultante de la dépense énergétique trop importante qui a eu lieu quelques minutes auparavant. Ils vont rester sur ce chaos sans se poser la question. Et ça, c'est juste du travail d'analyse. Je me suis dit, OK, mais ce chaos, pourquoi il y a une baisse de lucidité? Pourquoi les déplacements ne sont plus les mêmes?
Ça vient de là.
Exactement. Mmh. Donc, c'est du simple analyse et de la simple analyse. Et puis derrière, c'est des choses que j'ai eu la chance, moi, de travailler avec vraiment des précurseurs de la discipline, comme Marc Fioré et Christophe Midou. Je pense qu'on est effectivement très, très en avance sur ce genre de secteur.
Et si vous êtes en 2032, comment on arrive en 2040, Aldric ? C'est quoi le focus ? Est-ce que dans ta tête, qui charbonne toujours sur la suite, est-ce que tu as déjà un truc où tu sais que dans les années à venir, ça va être très important de se focus dessus ?
Ouais, je pense vraiment que... Bon, déjà, moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de connexions. Axel et Sola et Virgil Hogan sont partis s'entraîner chez John Danner, en sachant que John prend très peu d'extérieur. Donc...
Sommité absolue du grappling, hein. Gordon Ryan en élève, hein, tout ce que vous voulez. Hein.
Et donc, je pense que déjà, les connexions que j'ai vont beaucoup nous aider. Et après, pour être très bref, parce qu'il faudrait presque faire un podcast entier là-dessus, je pense que le schéma...
Ça me donne une idée. Peut-être on s'en refera un.
Je pense que le schéma associatif, il a atteint ses limites. Et qu'aujourd'hui, si on veut... Aujourd'hui, on a... 13, 14, peut-être 15 combattants français entre ceux qui sont déjà à l'UFC et ceux qui peuvent y arriver, qui sont hyper performants. Et j'ai envie de dire que si on veut vraiment exploser maintenant et pas rester une nation qui est 5e ou 6e des nations de MMA, il faut vraiment que le professionnalisme arrive et qu'on puisse monter des équipes pro avec des budgets de façon à sortir un peu de ces schémas associatifs et que les mecs ne soient pas combattants UFC avec un travail. Parce qu'on est quand même parmi les derniers à proposer ça.
Ouais,
sur les 12 ou 13 combattants qui sont à l'UFC, il y a des mecs qui ont encore un boulot.
Et pour te connaître, je pense que c'est aussi professionnalisé globalement.
C'est ça.
Aussi sorti de la cage, tout ce qu'il y a autour.
Bien sûr.
C'est très important.
Pour comprendre rapidement, ça doit devenir la même chose que les équipes de foot ou de cyclisme, ouais, avec une prise en charge totale de l'athlète. Et on ne peut plus penser que les mecs aient une activité professionnelle en dehors de
leur camp. On a encore des fighters de haut niveau qui gèrent le côté média. Hein,
c'est ça.
En France aujourd'hui. Donc il faut séparer tous ces trucs-là. Et tu dis, si on veut être un sport comme le cyclisme, le football, le rugby ou machin, il faut s'adapter à ça et être professionnel. Comme ces sports-là.
Et c'est bien de le dire à l'antenne d'RMC parce que je pense que RMC, ils ont déjà fait un bond de 10 ans dans le futur au niveau de la prise en charge du média MMA. Mmh. Et maintenant, c'est à nous, acteurs sur le terrain, de faire la même chose au niveau des structures. Il doit y avoir des structures professionnelles pour accueillir nos fighters. Et là, on pourra arriver dans le top 3, voire peut-être la meilleure nation de MMA au monde parce qu'on a la qualité.
Parce que les talents sont là. Le pool de talents est là.
Bien sûr.
Et les dernières questions, elles sont sur Virgil et Axel. Donc on enregistre, on cachera à nos auditeurs toujours au Fighter Club. On enregistre le jeudi 18 avril. On est quelques heures avant. Le combat pour le titre des moins de 84 de Arès pour Virgil Hogan contre Vladislav Goutou. Ce sera au Dôme de Paris, donc ce soir exactement. Et Axel Sola, qui est champion des moins de 70, lui, de cette organisation Arès depuis quelques mois. Tu le disais tout à l'heure, tu seras sans doute à l'UFC Paris, mais peut-être pas pour Manon Fiorot.
Ouais.
On est d'accord qu'on parlait de ces deux-là ?
Ouais, très clairement.
C'est avancé ? On y est proche de ça ?
Ben, ce qu'on peut dire au moment où on se parle, c'est que Virgil a coché toutes les cases. Il a un palmarès professionnel vierge. Il a un passé à l'IMAF qui est sponsorisé et soutenu par l'UFC. L'IMAF, donc c'est important. Et aujourd'hui, il a déjà battu quelqu'un qui était au Dana White Contender Series. On sait que l'UFC, c'est important pour eux de contextualiser les performances d'un athlète. Donc je pense que ce qui lui manque aujourd'hui pour avoir coché toutes les cases et être prétendant à l'UFC directement, c'est être champion d'une organisation majeure. Donc ça, ce sera chose faite ce soir, je l'espère. Quant à Axel, il va défendre sa ceinture à Arès au mois de juin, ça c'est officiel. Ce sera vraisemblablement à Aix, ils l'ont annoncé, je crois, hier ou avant-hier, les Arès. Et après cette défense, on en parlera aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce sont deux prétendants à l'UFC directement et ils n'ont pas à passer par le Dana White Contender, vu qu'ils ont un palmarès immaculé.
Mais on est d'accord, c'est pas juste il y a des discussions.
Ah non, l'UFC connaît leur nom et ils vont suivre... de façon soutenue et en live le combat de Virgil ce soir et celui d'Axel au mois de juin.
Très intéressant, on a hâte de voir ça clairement. Et la dernière, elle est parce que si Virgil et Axel arrivent, on pourrait se dire le Boxing Squad aura 3 personnes à l'UFC avec Manon Fiorot, mais en fait 3,5, puisqu'il y a quelqu'un qui ces derniers mois a passé du temps chez vous qui s'appelle Kevin Jousset, qui s'entraîne d'habitude au City Kickboxing du côté de la Nouvelle-Zélande. C'était le Français surprise qui est arrivé à l'UFC l'an dernier, qui va faire son 3e combat à l'UFC le 11 mai à Saint-Louis contre Jared Gooden. Il est à 2 victoires, 2-0 pour l'instant à l'UFC. Comment ça s'est passé, le travail avec lui? Parce qu'il vient de Gap, hein, il vient de la région de Gap, donc il y avait une logique à vous connecter à ce qu'il vienne chez toi quand il a passé quelques mois de vacances en France. Comment ça s'est passé avec lui? Comment tu le vois? Comment tu vois son potentiel? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Kevin?
Alors écoute, déjà comment ça s'est passé? Bah, ça devait être une semaine au départ et ça a été plus d'un mois. Et on a travaillé. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Kevin, c'est qu'il était en vacances quand même. Et malgré tout, on a travaillé 2 fois par jour, matin et après-midi. C'est quelqu'un qui est vraiment très ouvert, qui a... Franchement, je pense qu'il a une marge de progression encore de l'ordre de 30% et dans tous les secteurs, que ce soit en lutte, en cage-contrôle, en pied-point, en footwork. Et je pense qu'il a aujourd'hui, pour moi, il flirte avec le niveau top 15 et sa marge de progression, elle est impressionnante. Ouais. Donc, il est jeune. Lui, il me dit qu'il est, c'est pas jeune, mais moi, je trouve que 29-30 ans, c'est jeune. Et je pense que vraiment, ça peut devenir un top contender à cette ceinture. Et j'aurai encore beaucoup de plaisir à travailler avec lui dans les semaines et mois à venir.
Et l'homme en soi, Boxing Squad compatible.
Ah ouais, c'est une personne formidable et c'est un garçon qui est en or et moi que j'apprécie vraiment beaucoup.
Merci beaucoup Aldric Cassata pour toutes ces lumières sur le Boxing Squad et sur Manon Fiorro et tout le reste de ton équipe. On attend bien sûr fort cette chance pour le titre des moins de 57 kilos. On sait qu'elle l'aura, on sait qu'elle va venir la chercher et elle la ramènera sur ce bureau, Aldric Cassata. C'est noté, hein.
C'est
une promesse qui sera tenue. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-vous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut et merci Aldric. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
RMC Fighters Club.
Envie de parier sur le sport? Avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleurs codes du marché.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.